Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Pas favori, on est même les tocards de la finale. On n'est même pas outsider, on est tocards.
C'est le but le plus important de ma carrière. C'est le seul.
Ils ont semblé considérer Nice comme la troisième roue de leur carrosse. Hein.
Jusqu'à minuit 30, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Et oui, l'after continue jusqu'à minuit et demi, comme lors de chaque soirée de Coupe d'Europe. Vous le savez, c'était Ligue des Champions. Ce soir, on s'est régalé dans l'after émission hein, qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas. Et Daniel Riolo est là. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Lionel Charbonnier également avec nous ce soir. Salut Lionel.
Salut les copains, salut à tous.
Salut Lionel.
On va parler de l'OM évidemment en longueur. Supporter marseillais vous attend au 32-16. Et oui, c'est comme ça à Marseille. Tu ne peux pas gagner en 18 matchs, deux fois contre l'OM en Ligue des Champions. Non, je suis trompé.
Oui.
Tu ne peux pas battre sur 18 matchs 16 fois l'Olympique de Marseille.
J'ai toujours pas compris.
Non, c'est toujours pas bon.
Non, je sais pas ce que tu veux dire.
Tu fais exprès.
J'ai toujours pas compris.
Non, mais ça vient, vous rappelez de Gerulaitis Villas.
Oui, d'accord, et donc.
Et donc, Gerulaitis gagne après 16 matchs contre Connors, Gerulaitis-Connors. Gerulaitis, après 17
là,
matchs.
Là, on est dans l'introduction la plus pourrie de l'histoire de l'after, là, Lionel. Là.
Gerulaitis,
après 17... Après, je sais où il veut en venir.
Oui, mais... moi aussi.
Gerulaitis, après 17 matchs, bat enfin Connors. Il arrive en conférence de presse, il dit on ne bat pas Gerulaitis 18 fois.
Voilà. Ouais. Très bien. Okay.
Donc là, l'OM.
On ne bat pas 18 fois.
L'OM.
Ouais, en l'occurrence, c'est plus qu'ils n'avaient pas gagné. Voilà, c'est...
Ouais, vous m'avez compris. L'OM, ouais. Non, en longueur, supporter marseillais, vous attend en 32-16. 4-1 face au Sporting, tout à l'heure en début de soirée. Il y aura ensuite le rôle de l'âme, bien sûr, pour les autres matchs du soir. Il y a des résultats étonnants. Hein. On a un Bruges de feu, on a un Naples en fusion, qu'est-ce qu'on a encore ? On a des décisions de VAR à Porto totalement incroyables. Bref, de belles soirées de Coupe d'Europe. Évidemment, qu'on va débriefer ensemble. Et puis, il n'y a pas que la Coupe d'Europe ce soir. Il faut qu'on parle de Lyon. Après les déclarations de Sidney Govou, Jean-Michel Aulas s'est exprimé également aujourd'hui. Bref, on vous attend. Je le rappelle, dans son histoire en C1, l'OM n'a jamais perdu 17 matchs sur 18. Voilà, c'était ça la bonne phrase. On est préparé avec Jérôme Thomas pendant tout l'après-midi. Mais bon, voilà.
Ouais, écoute, tu devais avoir la tête ailleurs.
C'est l'heure des 3 points, 23h05, jingle.
L'important c'est l'essentiel.
Le plus important c'est les 3 points.
Mais souvent l'essentiel c'est le plus important.
Et oui, 3 points de débat pour structurer notre heure. Lionel, quels sont tes 3 points ce soir?
Alors après 17 matchs sur 18... Non, après 2 ans en fin de compte, ça fait 2 ans sans victoire, c'est ça? Écoute, celle de ce soir, cette victoire de l'OM, elle est très 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 importante, mais je ne suis encore pas totalement convaincu pour le futur de l'OM dans cette compétition. Ok, il y a 4-1, mais à 11 contre 10, je pense que l'OM aurait pu mieux faire, ça aurait pu... Voilà, je reste un peu sur ma faim. En point numéro 2, malgré tout, j'ai bien aimé certaines individualités, Sanchez, Mbemba, Harit, Nuno Tavares, le côté gauche, j'ai trouvé avec Guendouzi, super. Et puis en 3, bah, je voulais parler de Naples, mais je vais parler de Tudor, que j'ai bien aimé, bien inspiré.
Daniel.
Alors, je vais peut-être perturber et choquer certains supporters de l'OM. Mon premier point...
Je pense que tu vas me rejoindre.
Mon premier point, c'est une grande victoire. Mais j'enchaîne directement sur mon point 2. C'est une petite prestation dans laquelle, paradoxalement, je n'ai rien vu de rassurant.
On est d'accord.
Et le troisième, c'est sur les autres matchs, parce qu'il y avait une très belle soirée de Ligue des Champions. J'ai particulièrement suivi les deux matchs des équipes italiennes. C'est une belle soirée italienne. Naples, incroyable. Vraiment la prestation de Naples, incroyable. Et la victoire de l'Inter à l'arrache, mais vraiment à l'arrache de chez l'arrache, avec un petit arbitre domicile. C'était également l'un des clous du spectacle de la soirée. Voilà.
Alors figurez-vous, pour démarrer, qu'on a Julien qui y était au stade. Ce qui en soi est une performance, vu que le match était à huis clos. Julien, bonsoir.
Ouais, bonsoir les amis.
Bah, comment t'as fait ?
Bonsoir Julien.
Bah ouais.
Bah, il n'y a rien d'exceptionnel. Hein.
Bah, raconte.
Bah, rien d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y avait une tribune UEFA dédiée au match. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il doit y avoir des arrangements entre l'UEFA et les clubs. Et pour un huis clos, effectivement, il y avait une tribune qui était partiellement ouverte. J'ai un collègue qui avait un ami qui bossait de près ou de loin à l'UFA et qui m'a gentiment invité. Donc,
de près ou de loin.
C'est parti de la poignée de privilégiés qui ont pu assister.
Attends, Julien, il est bon. Julien nous a dit, j'ai un collègue qui avait un ami qui avait une place. Ah, mais, t'as bien noyé le poisson.
C'est la vérité. Je vais pas vous sortir un saucisson. La vérité, c'est comme ça que ça s'est passé.
Bon, donc, t'as bénéficié d'un petit. T'as bénéficié d'un petit piston.
C'est même pas du piston, c'est la gentillesse, c'est le petit coup de fil qui fait plaisir.
Très bien. Bon, là-bas, raconte un peu l'ambiance avant qu'on parle du terrain et du match, parce que c'était un peu spécial.
Sincèrement, je vais vous dire, même si on était privilégié, c'est le match auquel tu n'as pas envie d'assister parce que c'est dégueulasse. Voilà. Un match à huis clos de Ligue des Champions, c'est dégueulasse. Voilà. C'est pour donner un ordre d'idée, tu as l'impression d'assister à des funérailles. Voilà. Et tu as une musique de Ligue des Champions qui arrive, donc tu es de l'intérieur forcément, tu n'es pas à la télé.
Ouais.
Donc tu vois ces 66 000 places vides, tu vois ce stade qui est vide et tu vois ce protocole officiel comme si, ben voilà. Donc il y a un côté navrant. Et le pire, c'est quand tu arrives 30 secondes à l'avance et que tu n'as pas le temps de t'asseoir sur ton siège, que tu entends but pour Porto, parce qu'ils ont marqué à la 50e ou première minute.
53
secondes. Je venais d'arriver en retard, donc je suis un peu blasé. Donc je me dis, putain, voilà, scénario de merde, huis clos, ça va être terrible. Et puis ben, tu te rends compte que moi c'est ma théorie, alors après on la partage pas, je l'avais dit avant que le match se joue, il y a certainement des joueurs qui pas se chient dessus, mais c'est vrai que quand tu joues au Vélodrome, à mon avis c'est une ambiance particulière, si tu n'es pas prêt voilà, à vivre avec 65 000 supporters chauds bouillants de la première à la 90e, moi je pense qu'il y a des joueurs ce soir qui se sont transcendés, c'est paradoxal ce que je dis, parce que justement, il y avait une ambiance mortifère. Je prends Balerdi, par exemple, qui a fait un match.
Ben non, mais il y a des joueurs qui peuvent être totalement inhibés par une grosse ambiance, en fait, et se retrouver, en fait, sous pression.
Mais à contrario, tu peux avoir des joueurs aussi qui se disent, pour une fois que je ne vais pas me faire siffler, si je rate un crochet, si je perds une balle, si je rate un contrôle. Tu vois ce que je veux te dire ?
Alors, revenons juste quand même un peu sur les circonstances du début de match. Bon, il y a match en retard. Alors, les Portugais, peut-être qu'ils l'ont fait un peu à l'ancienne, en prenant le temps, en se disant, tiens, on va essayer de déstabiliser l'OM. Ça a marché. Tudor était en colère, parce qu'on a démarré en retard. Et l'OM a pris un but d'entrée. Et là, on se dit, qu'est-ce que c'est que ce scénario horrible, match à huis clos, là. Ça partait quand même très, très mal.
L'OM n'a pas pris qu'un but d'entrée. L'OM a été absolument dépassé à peu près partout, techniquement, mentalement, dans l'approche du match, pendant certes peu de temps, mais c'était absolument un cauchemar. Et l'OM était parti pour perdre ce match parce que tout simplement, c'est une équipe inférieure au Sporting. Il arrive parfois, ce qui peut se passer dans le foot, parce que ce sport propose parfois des scénars complètement dingues. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a un gardien qui a massacré le match. Mmh. Et le gardien du Sporting, il a massacré le match du Sporting.
Ouais, le pauvre.
L'OM en a profité, et c'est très bien. Tant mieux, les Marseillais se relancent. Mais derrière, comme je disais, cette grande victoire, parce qu'elle est importante, parce qu'elle te replace, même si tu es toujours dernier, malgré tout, il y a quand même encore deux matchs à jouer à l'extérieur. Hein. Il va falloir aller jouer à Lisbonne, à Francfort et recevoir Tottenham. Donc, le parcours est quand même pas simple dans ce qu'il reste à faire. Mais tu as un espoir. Tu as l'espoir. Et parfois, le foot, avec des scénars comme ce soir, te permet d'y croire. Mais dans le jeu, c'est incroyable de constater que tu as mis quatre buts sans rien proposer. en action offensive, en jeu. Tu as été présent, tu as eu un bon état d'esprit, ça c'est sûr. Mais l'adversaire, et notamment ce rôle capital que peut avoir un gardien dans un match, t'as quasi donné, t'as mis en tout cas sur les rails pour que t'ailles gagner ce match-là. Avec une boulette énorme, une deuxième boulette énorme. Bon, bah vas-y les gars, prenez le match. L'OM l'a pris, tant mieux, vraiment, je répète, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je fais assez de compliments à l'OM depuis le début de la saison pour ce soir être assez sévère quant à leurs prestations depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Là, il y a un état d'esprit qui était meilleur, mais contre Tottenham, l'état d'esprit, il était bon aussi. C'est contre Francfort qu'il était moyen, on a l'impression que mentalement, ils sont passés à côté. Là, ils ont bien réagi grâce aux boulettes du gardien. Encore faut-il, quand tu gagnes le jackpot, ramasser les pièces. Ils l'ont fait. Mais on va en parler. Dans le jeu, je ne vois rien de rassurant dans cette victoire de l'OM, malheureusement. Et c'est un paradoxe parce que le score est quand même très large, c'est 4-1.
Et Lionel, t'es d'accord ?
Ah bah 200%, c'était mon premier point. Daniel l'a fort bien résumé. Tu gagnes sur les trois erreurs monumentales, monstrueuses du gardien. Bon, ça arrive. Le mec, il est passé. Il a fait sûrement les 25 minutes de sa vie les plus cauchemardesques pu avoir de sa carrière.
T'as déjà connu un moment aussi dingue d'absence
non,
totale.
Non, le pauvre, non.
Parce que là, c'est assez fou, là.
C'est dingue. Alors tu peux pas dire que c'est à cause des supporters. Tu peux pas dire que c'est, ou alors c'est peut-être parce qu'il y en avait pas. Alors lui, peut-être que d'habitude, et ben justement, il se transcende parce que il y a de l'hostilité. Alors,
Nico Villas disait qu'il avait été très bon l'année du titre du Sporting, ce gardien.
Mais bien sûr,
ans.
C'est un très très bon gardien.
Mais c'est le passage au travers. Tu sens pas que c'est la passoire, le mec tout. Non, là, tu sens le gars qui, bon, la première relance, ok, mais ce qu'il fait sur le carton rouge. Le gars, il comprend même pas qu'il est pas dans la surface.
Mais là, et en plus, il est allé se le chercher. C'est-à-dire qu'il loupe, il loupe son dégagement. Mais déjà, il les met carrément sur Guendouzi. En plus, derrière, il sort, tu sais pas. Non, il est à côté de ses pompes. Bon, après, ça a été provoqué aussi par les Marseillais. Fort bien provoqué parce qu'il y a eu une réaction. Il y a aussi un homme que j'ai cité tout à l'heure que j'ai oublié de citer dans mes trois points, qui a eu un arrêt à faire. Mais il l'a fait quand il fallait, c'était à 1-0, c'est Paul Lopez, le face-à-face qui gagne, parce que ça se trouve, s'il gagne pas ce face-à-face, derrière, il n'y a pas toutes ces conneries.
C'est vrai. Ça, tu fais bien de le dire, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un moment très important de ce début de match.
C'est un moment hyper important.
Au moment où l'OM prend l'eau, mais un truc de fou.
Exactement, et là tu gardes la tête hors de l'eau, tu reprends confiance. Alors ça a été quand même, ils ont été emmenés par... pour moi, par un Sanchez qui a été extraordinaire de mental, de générosité, tout ça. Il est provoqué quand t'as un attaquant comme ça, tu vois, un peu à l'image de Cavani, tout ça. Moi, j'adore ces attaquants-là qui se défoncent, qui montrent l'aspect défensif, le pressing, qui va presser. Parce que, ok, le gardien fait l'erreur, mais l'autre, il va quand même chercher
le pressing. Un autre attaquant aurait peut-être pas fait ce pressing-là. T'as raison, c'est vrai.
Mais combien t'en as qui font des pressings? Au moins, t'en as un qui a compris que s'il y en a un qui est moins bon que les autres normalement au pied, c'est le gardien de but. Et quand dans 99% des pressings, juste pour finir, dans 99% des pressings, eh ben les attaquants arrêtent de presser sur le gardien.
Tout à fait.
Et ben Sanchez y est allé, lui, il a eu, ben voilà.
Julien, sur la prestation globale, t'es d'accord avec Daniel et Lionel?
Franchement, je vais vous dire une chose, je m'en fous de la prestation globale, c'est qu'à chaque fois qu'on appelle, on ne peut pas en placer une. Vous nous demandez d'appeler, on peut même pas en placer une. On entend Daniel pendant 10 minutes, on entend Lionel Charbonnier pendant 10 minutes, et toi tu es là en train de demander est-ce qu'on peut causer. Putain, j'étais chaud pour parler du match justement.
Mais vas-y, regarde, c'est maintenant. Pourquoi t'énerves pas, Julien? T'es là tranquillement.
À un moment donné, n'invitez pas les gens à appeler si c'est pour les couper au bout de 2 minutes.
Mais vas-y, parle.
Mais non. Mais à un moment donné, vous le savez ce que je suis en train de dire. Vous invitez les gens à appeler, à réagir. Vous êtes en train de parler pendant 10 minutes. Parler entre vous, les gars.
Ben non, justement, en fait,
qu'est-ce que tu voulais dire?
Non, t'as pas compris l'idée, c'est que t'es là, tu nous écoutes et après tu réponds.
Ah, d'accord. Donc j'appelle en fait, j'attends 10 minutes au téléphone pour parler. Et je dois attendre 10 minutes en plus quand j'ai parlé une minute.
Bon, sinon, tu n'aurais pas pu nous entendre.
C'est de la radio libre ou c'est un débat entre Lionel Charbonnier
et Daniel? C'est de la radio.
Est-ce que tu es d'accord avec nous?
Je suis en désaccord
parmi vous deux. Voilà. Sur ce que vous avez dit, je suis d'accord.
Alors, j'ai eu raison de plus pour le dire.
Voilà. Le Sporting, ils se sont fait massacrer. Oui, effectivement, sur la première occasion, ils marquent. Donc, effectivement, si tu parles de ce fait de jeu, en synthétisant, en disant, ben voilà, ils ont marqué un premier jeu, on a eu une chance inouïe, le gardien était arraché. Non, à un moment donné, l'effet de jeu, c'est pour nous aussi, à notre faveur. Le gardien qui se trouve, le carton rouge, ça joue aussi. Nous, Mbemba contre Tottenham, il s'est fait expulser. On n'a pas dit Tottenham, ils ont fait un bon match, machin. On n'a pas pris. Voilà. Pour une fois que l'effet de jeu est en notre faveur, on les prend, on a fait un gros match, on les a écrasés. 4 à 1, 3 points. Voilà. Moi, je suis content. Donc, arrêtez de dire.
Ah, mais non, on est très content pour l'OM.
On les a écrasés.
Et moi, je vais te dire, alors bon, là, on peut peut-être faire le concours de différence sur la performance, mais en tout cas, ce qui est important psychologiquement, c'est qu'il y a enfin une victoire aussi, parce qu'on l'a pas encore dit, mais enfin, là.
Non, mais la réaction, surtout, la réaction, 1-0, quand tu perds comme ça, c'est génial.
Maintenant, je suis absolument pas du tout d'accord avec l'auditeur. Il a le droit de penser qu'il les a écrasés. Je pense qu'il devait être dans les petits fours en loge, confortablement installés, mais il a écrasé personne. Il a vraiment écrasé personne. Vraiment.
Ah, d'accord.
Ils ont écrasé l'Ajax ce soir. Naples, ils ont écrasé l'Ajax. Si tu revois le match, Naples, ils ont écrasé l'Ajax. Et l'Inter a battu ce soir le Barça sans vraiment les écraser. Mais ils ont gagné. Mais je pense que s'il y a match nul, s'il y a un arbitrage un peu différent, je pense que le Barça repart avec un petit peu plus. Le football, ça n'est pas qu'une affaire de résultats. C'est pour ça que la phase de poule, elle comporte 6 matchs, que pour l'instant, l'OM est dernier après 3 matchs, que j'aimerais bien, moi, franchement, pour notre football, qu'il soit dans les deux, mais qu'il faudra, à un moment, réussir un match complet. Je suis pas sûr que sur 6 matchs, tu en gagneras 3 en jouant comme ce soir, c'est-à-dire en ne proposant pratiquement aucune action offensive. Parce que des occasions, t'en as très peu par rapport aux 4 buts. Donc ça s'appelle une réussite maximale avec un adversaire qui t'offre par le biais de faits de jeu un résultat. C'est juste une analyse objective. Après, il y a parfois tu prends, des fois tu prends pas. Comme tu l'as dit, ça t'as raison. Parfois les faits de jeu, ben faut savoir les prendre. Mais ça, c'est exactement ce que j'ai dit. Tu gagnes le jackpot. Encore faut-il pas oublier de ramasser les pièces. Les pièces, tu les as prises, elles sont dans ta poche. Tant mieux. Mais il faut être assez lucide. Pour regarder ça d'un petit peu plus près, je pense que techniquement, tactiquement, le Sporting, même sur la deuxième période, quand ils sont en infériorité numérique, dans ce qu'ils savent faire avec le ballon, c'est mieux que l'OM, même à 10 contre 11.
Julien, tu veux ajouter quelque chose?
Bon, on retiendra que voilà, le Sporting c'était mieux que l'OM
Après on te pose des questions, on essaye de dialoguer avec toi et puis tu veux pas. Là t'es vraiment de mauvaise foi, je suis désolé. Parce que là moi j'essaye de te poser des questions mais tu veux pas répondre.
Bon, on va
mais moi je veux bien
avancer.
Qu'il réponde, hein. Moi je veux bien parler avec lui, hein.
Mais il est là Julien, il peut répondre.
Mais tu as craqué, tu juges quelqu'un parce que j'ai dit que j'ai eu la chance effectivement d'assister à ce match. Tu caricatures la personne en disant « Ouais, il était tranquille, imagine ses petits cours, sa petite coupe de champagne. » Mais qu'est-ce que tu en sais ?
Oh là là, on peut pas rigoler, Julien, t'es stressé quand même.
C'est incroyable,
comme t'es stressé. On rigole quand on dit en loge, t'es les petits fours. Ça va, c'est
Julien, il est contrarié.
Non, mais je suis pas insulté. Julien, je voudrais poser une question.
Je suis pas insulté parce que j'ai fait une blague. Bon,
Julien, avec du recul, Julien, sans s'énerver, sans rien, est-ce que tu penses qu'une victoire sur 3 faits de jeu que toi t'as nommé, que t'as dit, c'est toi qui as dit que c'était 3 faits de jeu et t'as parfaitement raison, est-ce que tu penses que c'est suffisant pour continuer sans trop proposer de jeu pour les prochains matchs, pour continuer à gagner en Champions League? Avec
Lionel,
ce que tu as vu ce soir,
Lionel, la presse en général attendait simplement que Marseille échoue ce soir pour dire encore une fois on est dégueulasse en Europe. Résultat,
oh non,
c'est un match à huis clos.
Mais c'est qui la presse qui attendait, Julien?
Mais comme d'habitude,
donne des noms, des exemples.
Comme la plupart de vos émissions, pour pas la nommer, par exemple, tu prends le Moscato Show, je suis pas un auditeur fidèle de cette émission, mais c'est toujours pareil avec leurs questions à la con. Est-ce que c'est plus probable que le Brésil gagne la Coupe du Monde ou est-ce que Marseille finisse avec 0 point en Ligue des Champions?
Alors Julien, je vais te répondre. Alors déjà.
Là, il y a un problème de premier degré.
Alors déjà la base. Déjà, oui. Quand tu n'aimes pas une émission et tout, déjà, le mieux, c'est de zapper. Déjà, tu commences par ça.
Tout ça, c'est la faute d'Adrien Aigouin.
Deuxièmement,
en fait,
deuxièmement, le Moscato Show, si tu n'as pas compris que c'était une émission où il y avait beaucoup de dérision et de second degré, t'as pas compris le principe de l'émission. Troisième point, une émission où l'intervenant le plus régulier, en dehors de Vincent, c'est Eric. Je pense qu'en matière de Marseillais, de supporters de l'OM, il a quand même deux trois atouts en dehors de l'analyse foot, mais dans l'émission de Vincent, il y a quand même beaucoup de blagues de second degré. C'est la nature même de l'émission. C'est un show. Bon, là, je pense que t'as un problème de compréhension sur l'émission. Maintenant, si tu veux m'en citer une autre où les gens attendaient une défaite de l'OM, moi je veux bien. Je veux bien que tu me dises qui attendait une défaite de l'OM.
Peut-être Julien Cazard.
Oui, enfin moi c'est pas journaliste quoi, c'est pas.
Non mais lui, ça disait, va.
Lui, il, c'est pas de ça dont il parle, Julien. Donc j'aimerais savoir qui attendait une défaite de l'OM ce soir.
Bon, en tout cas pas nous.
Je comprends pas cette victimisation. Mais je comprends pas pourquoi il est contrarié en fait.
Bon, allez, avançons.
Parce qu'on l'a pas laissé parler.
On a plein de choses à faire. Ah. Et la preuve qu'on laisse parler les gens, c'est que justement on l'a pas coupé quand il se plaignait qu'on le laissait pas parler. Voilà, donc. Vous en faites pas si vous appelez.
On comprend pourquoi il est fâché. Vraiment, je comprends pas.
Vous pourrez nous appeler. Bon, on va continuer le débat.
Il a pas répondu à ma question.
Oui, mais là, le problème, c'est qu'on va tourner en rond, donc ça va devenir un dialogue de sourds qui n'a pas de sens. Dans une minute, on revient pour revenir sur ce match dans le détail. On aura Ibaz avec nous. On fera une évaluation, évidemment, ensemble. On reparlera de cette histoire de relance courte, Lionel, que tu as évoqué tout à l'heure également. En tout cas, voilà, l'OM a gagné ce soir et on est bien content pour le foot français et pour Marseille, bien sûr, qui l'emporte 4-1 face au Sporting. À tout de suite, l'After LH jusqu'à minuit et demi avec les drôles de l'âme également tout à l'heure. Et puis tiens, si vous voulez voir notre studio et nos physiques de radio, connectez-vous sur Twitch, puisqu'on est également en direct sur Twitch lors de chaque soirée de Coupe d'Europe jusqu'à minuit et demi. Vous allez voir, on est très beau. Enfin, de loin. Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Daniel Riolo et là, Lionel Charbonnier, là, 23h24, l'OM, évidemment, au programme de l'After ce soir, après sa victoire 4-1 face au Sporting. C'est relance courte. Est-ce que ce qu'a fait Alexis Sanchez soir.
Non, alors là, c'est pas une relance courte pour le coup.
Oui, là,
il s'apprête à dégager en plus.
Pardon, mais alors, ok, bah, prenons le deuxième but. Alors, c'est pas Alexis Sanchez, mais c'est une relance courte quand même, qui est récupérée par les Marseillais. Et en fait, ça fait quand même. À peu près, je sais pas, 2454 matchs qu'on se dit, mais pourquoi les attaquants, ils vont pas franchement sur la relance courte, Lionel?
Toi, ouais, sur la passe au gardien.
Bah oui,
ouais,
donc
globalement, ça marche pas beaucoup. Il y a très.
C'est des cas marquants. Ça marche peut-être mieux. C'est des cas marquants, mais qui n'arrivent pas. Il y a un pressing plus précis.
C'est des cas marquants, mais qui n'arrivent pas tant que ça. Et surtout, n'oublie pas un truc, c'est que si t'as un attaquant ou deux qui se jettent comme ça pour le faire, et qu'ils ne prennent pas le ballon, ça peut créer un décalage quand même derrière. Il faut faire attention à ça. Il faut pas tomber dans le piège de dire que c'est facile de faire ça.
On pourrait organiser le pressing autrement, tu vois, pour pas qu'il y ait ce décalage et qu'il y en ait un.
Mais le but,
comme Alexis,
il est là. Le but, il est là. Dans, on va dire ce qui est, on va simplifier pour schématiser, faire simple. L'idée Guardiola, quoi, bon, qui est faite par plein d'autres gens, mais on va dire ça pour faire
simple. Oui, il y a
l'idée,
un suivi,
c'est justement que les attaquants et le bloc montent haut pour essayer de presser. Parce que si techniquement t'es assez habile pour réussir la sortie, derrière tu peux créer des gros boulevards. Et c'est pour ça aussi que certains entraîneurs essayent de dire « n'y allez pas trop ». Parce que ça peut nous emmerder derrière si les mecs sont forts techniquement. Donc, tu vois, le piège, il peut être des deux côtés, finalement.
Mais là, on est en train d'avoir, Daniel, on est en train d'avoir cette réflexion. Je suis d'accord avec toi, hein, sur le raisonnement, il n'y a pas de souci. Mais on est en train, n'y allez pas, parce que le mec, s'il est fort techniquement, on va se prendre un bouillon. C'est-à-dire que le mec qui est supposé le moins fort techniquement au pied.
C'est pour ça qu'il cherche des gardiens forts.
On est en train de dire s'il est fort techniquement. Ouais, mais enfin, avant tout, quand même, s'il y en a un qui est vraiment dans une zone à gros risque, et que c'est là qu'il faut faire plutôt que sur une touche, le vrai pressing est bien l'organisé. Pour moi, c'est sur le gardien de but.
Mais je vois bien, Lionel, c'est pour ça que la recherche du gardien qui sait jouer au pied, elle est primordiale désormais.
Ouais, moi, je l'ai vécu plein de fois où j'avais eu des ballons en retrait. Alors, pas trop à Auxerre parce qu'on n'en faisait pas. Mais par exemple, chez les Rangers où j'étais mon premier match, je me suis cru numéro 10. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent pas de jouer avec moi. Bah, je dis, bah, ok, on va jouer. Mais je te jure, j'ai eu des mecs qui arrêtaient leur pressing au moment où des fois je me disais putain je suis dans la merde et l'autre hop il arrête son pressing, ah bah tout va bien. Et s'il avait, si l'attaquant avait continué son pressing, je peux te dire, j'aurais été pas mal de fois dans la mouise. Mais juste par cette peur-là, eh ben, ça m'a ouvert des possibilités de relance incroyables. Et je te promets, mais j'ai, et c'est pour ça qu'après, quand j'ai entraîné, que je disais, mais allez sur le gardien, de toute façon, mais tu fais quoi? Au pire, il balance.
Il y a beaucoup d'équipes maintenant qui font ça, effectivement. Et en fait, il y a très peu d'alternance. C'est-à-dire que, est-ce que la bonne solution, c'est pas d'alterner relance courte et longue, et de surprendre?
Ils essayent. Moi, ce qui m'énerve le plus là-dedans.
Les équipes qui font relance courte tout le temps.
C'est que, non, tu sais ce qui m'énerve le plus, moi, c'est que j'ai l'impression que tu donnes la balle au gardien parce qu'il y a que lui qui est capable de jouer long. C'est-à-dire que tu prends un risque supplémentaire devant ton but, à 3 mètres du but, pour balancer la balle. Mais le prend pas l'arrière latéral qui va donner, par exemple, la balle au gardien. Il est pas capable de faire une relance longue à la place du gardien et de gagner un temps et pas prendre ce risque. Ça, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a que les gardiens. Ah bah, faut relancer long. Bah, vas-y, toi, fous un pétron là-bas.
Pour avancer un petit peu, parce qu'on est d'accord, Lionel, je suis d'accord avec toi là-dessus, bien sûr. Ce qu'il y a dans cette action qui est positif et qui finalement rejaillit, tu l'as un peu dit tout à l'heure, sur tout l'OM, et c'est le point positif de la soirée, parce qu'une fois qu'on a dit, fois qu'on a dit qu'on n'est pas tellement trop satisfait de la prestation ensemble, derrière cette victoire qui est évidemment très très importante, il y a un mec qui s'appelle Alexis Sanchez qui donne du caractère à cette équipe, qui donne une forme d'âme à cette équipe, parce qu'après tout, rien ne dit. Mais rien n'oblige à gagner un match en étant supérieur techniquement, tactiquement. Il y a d'autres manières parfois de gagner un match. L'OM l'a fait ce soir. Il y a quand même des joueurs qui ont affiché. Guendouzi, on le sait, c'est un mec qui a beaucoup de caractère. Globalement, l'état d'esprit de l'équipe est positif. Et il l'a été deux fois sur trois dans cette Ligue des Champions. Et toi, tu le dis souvent, en Coupe d'Europe, c'est déjà bien quand tu as le caractère. Après, tu peux avoir des faiblesses, mais il y a des campagnes récentes de l'OM en Ligue des Champions où ils échouaient sur tous les plans. Là, j'ai presque envie de dire peu importe, parce que je pense qu'il reste trois matchs et je crois pas que l'OM n'affichera pas cet état d'esprit, parce que elle a un bon état d'esprit et Tudor réussit à donner ça, et il y a des joueurs qui ont du caractère dans cette équipe. C'est déjà un point positif. Je sais pas ce qui se passera à Lisbonne dans une semaine. Je vois le Sporting plus fort, mais peut-être ils me feront mentir, les Marseillais. Mais Alexis Sanchez, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il propose, c'est vachement important pour une équipe. Ça tire une équipe vers le haut. Harit a fait un très bon match aussi, et c'est bien d'avoir un mec comme Sanchez qui te parle, qui t'oriente. Et globalement, les Marseillais, pris individuellement, tu peux pas dire qu'il y en a un qui a été mauvais.
Exactement.
Tu peux pas dire qu'il y en a un qui a pas répondu présent.
Ils ont tous été bons.
Mais paradoxalement, le jeu collectif, je l'ai pas trouvé terrible, mais tous, ils ont au moins répondu présent en faisant chacun dans leur style un bon match. Après, t'avais des erreurs de passe, la passe pas donnée dans le bon tempo, le ballon qui rebondit, tu sais, un peu 3-4 fois avant d'arriver dans les pieds de l'autre, tu dis, oh, fais une passe sèche, bordel, mais une passe un peu comme il faut. Il y a plein de petits défauts comme ça, de petites choses pas très jolies. Mais globalement, t'as juste envie de leur taper sur l'épaule à la fin, dire c'est bien les gars, vous avez fait ce qu'il fallait faire, c'est bien.
Ouais, dans l'état d'esprit, il y a pas de souci. Et c'est vrai que c'est paradoxal, je suis encore d'accord avec toi. C'est ce que je disais sur mon deuxième point, parce que tu les prends individuellement. Bon, moi, j'ai surtout aimé Sanchez, parce pour tout ce que t'as dit. En deux, Harit aussi, ou un et deux, ou deux et un, comme tu veux, parce que Harit, j'ai trouvé exceptionnel. Harit, l'association aussi d'Harit avec Nuno Tavares sur le côté gauche, je la trouve, pour moi, ça pourrait devenir, ou ça doit devenir un incontournable.
Tavares, c'est typiquement le joueur on aime bien, mais on a envie de lui dire, Lionel, t'es d'accord, putain, fais le tri un peu dans ton jeu, quoi. Passe le tapis un peu dans ton jeu, il y a des choses à éliminer quand même.
Tu sais pourquoi on dit ça? Parce que, et c'est là où l'OM a pêché, c'est parce que comme il joue très haut et qu'il arrive à la faire soit l'avant-dernière passe, soit la dernière passe, et c'est là où l'OM a pêché beaucoup, je trouve, ce soir, c'était dans la dernière ou l'avant-dernière passe, voire même la finition. Et donc lui qui joue très haut, eh ben on a envie de lui dire, évite de faire ce dribble-là, vas-y direct, et pure ce que tu viens de dire.
C'est
parce qu'il est dans cette zone-là. Mais il y a eu beaucoup de joueurs dans cette zone-là aujourd'hui, qui moi m'ont déçu, parce que Alexis Sanchez a fait, je ne les ai pas comptés, mais je le regardais, mais il arrêtait pas de faire les efforts. Il était tout le temps en train de demander le ballon.
C'est limite presque trop, parce qu'après, il perd un peu de lucidité en phase offensive, quoi. Exactement. Tellement quand ils ont le ballon, je veux dire.
Qu'il fasse du jeu sans ballon, qu'on se serve de ses courses pour du jeu sans ballon et jouer d'un mec, par exemple, il emmène deux défenseurs sur lui, ça libère un mec qui vient sur le, dans son dos, qu'on s'en serve. Pas de souci, mais quand on se sert ni de son appel, ni de l'appel qu'il a laissé, enfin l'espace libre qu'il a laissé dans le dos pour le mec qui venait de l'autre côté, ça m'embête quelque peu. Et c'est là où j'étais, et je trouve que c'est paradoxal, parce qu'il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup de, on va pas revenir sur l'état d'esprit et tout ça, beaucoup de trucs qui vont bien, mais collectivement, eh ben on se sert pas de tout ça. Et il y a quelque chose qui me, moi, ça me gêne aujourd'hui et ça me fait peur pour la suite parce que je vois pas, j'ai pas vu quelque chose net. Et en plus, t'es à 11 contre 10. Et tu l'as dit, Daniel, je crois, tout à l'heure, deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, tu prends un bouillon à 11 contre 10. Hein. Alors, pendant 10 minutes, c'était terrible.
Les gars, nouvelle pause et ensuite on accueille Ibaz au 32-16. Il y a également Youssef qui veut parler de Tudor et puis on entendra Guendouzi, on entendra Harit, on entendra Igor Tudor dans quelques minutes. L'évaluation également est à venir. L'OM est au programme dans l'after. Encore pendant une petite demi-heure et ensuite on parlera des autres matchs de la soirée et de l'Olympique Lyonnais. Sidney Govou, là, s'est lâché. Jean-Michel Aulas a parlé.
Vous aurez les infos. Hier, on en a parlé hier. Il s'est pas relâché aujourd'hui.
Non, mais là, on n'avait pas tout. Ah. Hier. Il s'est quand même lâché fort là. On en parle d'ici minuit. Il a tout lâché,
il a dit la vérité quoi.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
23h35, Lionel Charbonnier est là, Daniel Riolo est là et Ibaz nous rejoint. Merci d'avoir patienté, Ibaz, bonsoir.
On a gagné ou on n'a pas gagné?
Bah oui.
Non, parce que là, faut pas oublier d'être content, parce que tout à l'heure, le supporter, il n'était pas très content.
Oui, même, au départ, il était content.
Il était fâché, mais... on n'a pas trop compris.
Bon.
Non, mais il était content de la victoire quand même.
Ouais, non, mais moi, je suis très, très content de la victoire. Je voulais juste dire que ce match, pour moi, il était un peu irrationnel. Je vous explique pourquoi. Mmh. Déjà, le match, il commence un quart d'heure en retard. Il n'y a pas de supporters.
Ouais.
En face de nous, on n'avait pas prévu, mais on avait un gardien de parking. Et Balerdi était titulaire. Alors, j'ai pas compris ça.
Et après, en plus, il marque.
Et après, il marque, oui. Ça, c'est le summum de l'irrationalité. Le gars, il marque un but. Alors moi, d'ailleurs, je voulais juste revenir sur ce qu'a dit Daniel tout à l'heure sur le niveau du Sporting qui était au-dessus de Marseille. En fait, je suis un peu partagé. Parce que je pense que Marseille, il ne faut pas oublier un truc, je pense que Marseille, en fait, c'est une équipe qui a moins de vécu. Et je pense que le Sporting est en avance sur nous, au niveau vécu, Ligue des Champions, et même niveau global. Parce que Marseille, en fait, pour moi, je pense que l'ère Longoria, actuellement, on est dans l'an 1 de l'ère Longoria. Et je pense que cette équipe-là, il faut qu'elle se développe année par année et qu'elle peut devenir beaucoup plus forte et beaucoup plus présente en Ligue des Champions. C'est juste que là, moi, comment j'ai ressenti le match, j'ai senti qu'il y avait de la fébrilité mentale. Et je pense que vraiment, ce pressing de Sanchez, il change tout. Il y a eu l'avant et l'après-pressing. Et ça, pour moi, ça change totalement le match. Voilà. Globalement, moi, je suis...
Ça, bon, j'aime bien. Ça, j'aime. Ouais, je suis assez d'accord
avec
ça.
C'est ce qu'on disait, ouais.
Ouais, je pense que concrètement, cette équipe de Marseille, elle va se développer sur les années. C'est juste que là, concrètement, là, il n'y a pas de vécu. En plus, Longoria, c'est sa première année. Amorine, je crois qu'il était là l'année dernière. Et puis, il était en Ligue des Champions. Et ça, la Ligue des Champions, on ne va pas se mentir, il y a l'expérience qui joue. Le mental. Il n'y a pas la petite musique ce soir. Enfin, il y a la petite musique, mais il n'y a pas le public. Je pense que cette équipe, elle est fragile en réalité mentalement. Elle a beau être forte en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, elle ne monte pas les muscles.
Oui, tu veux dire, elle ne sait pas où elle est et elle n'a pas de référence, qu'on le dise ou pas, qu'on le veuille ou non.
Elle n'a pas de référence.
Elle entend partout qu'en Ligue des Champions, c'est trop compliqué pour elle. Elle n'a pas envie de passer pour l'invité surprise. Et il y a une petite forme de pression comme ça qui peut effectivement peut-être s'emparer d'elle. Est-ce que ça va? Est-ce que ce résultat va libérer l'équipe pour la semaine prochaine? Je continue de penser qu'a priori ça peut quand même être compliqué à Lisbonne.
Et n'oubliez pas, je pense que les médias, alors je sais pas, les médias sont pas, c'est pas eux les responsables, mais le fait de parler tous les jours des défaites, du nombre de défaites, je suis sûr que les supporters les joueurs de l'OM, ils les entendent. Ils bien entendent sûr, qu'ils sont sur une série hyper négative.
Ah oui, non, mais ça oui.
C'est ils vrai, entendent, ouais, 15 défaites, 16 défaites, record.
Mais ça fait c'est partie vrai, des trucs à vrai. Gérer quand t'es professionnel, d'entendre
ce que ce serait 16 victoires, 17 victoires, je pense que tout le monde le dirait aussi. Tu vois ce que je veux dire?
Non, mais je dis pas que
tu sais que ça aurait, et tu sais que ça aurait des effets qui peuvent être tout aussi problématiques quand tu entends sens, à contrario, autour du PSG, qui a des fans qui sont beaucoup plus indulgents que ceux de l'OM avec l'OM. Sans arrêt, c'est génial, c'est fantastique. Au moment de la phase de poule, ils vont tout écraser. Ils ont la meilleure attaque du monde. Messi va redevenir le meilleur joueur du monde. Blablabla à longueur de temps. Et qu'au printemps, 8 fois sur 10, tu prends une porte dans la tronche. Ça peut avoir le même effet. C'est pour ça que nous, à chaque fois, on essaye. Avec, j'allais dire avec modestie ou non, d'ailleurs, il faut bien l'avouer. On essaye juste d'être lucide, quoi, de pas trop s'emballer, de pas trop enfoncer, de juste regarder ce qui se passe finalement, tu vois.
Non, mais c'est normal parce qu'après on juge à l'instant T, on va pas juger sur le futur, sur ce qu'elle peut devenir. C'est juste que ce soir, moi, je suis d'accord que bon, on n'a pas écrasé. Moi, j'ai pas senti qu'on avait écrasé le Sporting. J'ai senti qu'on avait marqué quand il fallait. Et qu'on avait piqué quand il fallait, qu'on a eu un peu de réussite. Je pense que vraiment le gardien, il nous a beaucoup aidé.
Il y a aussi un truc qu'on a.
Ouais, mais elle a été cherchée, cette réussite. Elle a été cherchée, cette réussite.
Il y a un truc sur lequel on n'a pas encore insisté, c'est la performance de certains joueurs qui, peut-être ce soir aussi, se sont libérés et derrière vont enchaîner. On espère pour eux.
On ne parlait pas de Bellerin, s'il vous plaît.
Si, on a parlé. On a parlé
par exemple. Non, par exemple.
Oui, mais regardez, si vous vous arrêtez au cas d'Arri.
Non, pas de
Bellerin.
Non, vous vous arrêtez au cas. Non, mais Bellerin, mais un but à un moment. Très très important aussi, ouais, attention,
il est bon, quand même.
C'est un gars qui est extrêmement critiqué. Il y a des gens, enfin, comment dire, à l'OM, ça tourne, donc on n'est pas dans des statuts qui sont figés avec des joueurs qui ont une grosse, c'est pas qu'ils n'ont pas confiance en eux, mais où on sait que c'est les tauliers. Harit, quand il joue, bon, il sait que grosso modo il a mis Payet sur le banc. Mine de rien, il faut pouvoir le supporter, ce truc-là. Tu vois, ok, on a bien compris que depuis le début de la saison, Tudor ne fait pas confiance à Payet. Il n'a pas pour autant à 100% installé Harit comme titulaire, parce que Harit ne l'a pas toujours été. Et là, ce soir, il fait un gros match. Est-ce que ça veut dire j'ai gagné ma place comme un joueur offensif majeur de cette équipe? Parce qu'on va dire qu'il y a Alexis Sanchez plus 2 pour l'instant, un coup de Gerson, un coup 1. Est-ce que maintenant, c'est Alexis Sanchez Harit plus 1, tu vois, les joueurs ont également besoin de ça, de sentir que l'entraîneur fait confiance et que, en gros, t'acquiers un nouveau statut. Bah, peut-être qu'Harit, ça va lui faire beaucoup, beaucoup de bien, le match qu'il fait ce soir, et qu'il pourra maintenir un niveau de performance élevé. Et il y a des joueurs à l'OM qui ont besoin de ça, qui ont besoin de renouveler des bonnes performances. Un mec comme Balerdi, il est beaucoup critiqué. Ce soir, ça peut lui faire beaucoup de bien, parce qu'il sait qu'il y a une concurrence rude en charnière centrale. Alors, ils sont beaucoup pour ces postes-là.
Je vous propose d'écouter quelques réactions, les gars. Tout à l'heure, Ibaz nous disait, match, je dirais un peu irrationnel. Tudor a expliqué pourquoi il était très énervé avant le match. Là, on écoute.
J'étais contrarié parce que nous étions déjà sortis en pensant que le match débuterait à 18h55. Pendant l'échauffement, quelqu'un est finalement venu nous voir pour nous dire que ça avait changé. Ce n'est pas normal, ce n'est pas correct. Ils doivent s'en tenir à ce qu'ils nous ont dit avant. Après, nous sommes ressortis à 19h. Eux se sont encore fait attendre une fois de plus. Je me suis un peu énervé pour réveiller mes joueurs.
Ah, pas mal la stratégie.
Il a fait exprès.
Il a fait exprès. Il a fait que ça. Il a fait que ça. Il a eu, je trouve, son attitude super. Parce que je l'ai vu aussi se mélanger aux joueurs. Il est allé voir les joueurs qui étaient groupe par groupe. Il est allé leur parler. Il est allé pour pas qu'ils perdent la concentration.
Ça n'a pas marché. Ils ont pris un but après 50 secondes.
Ouais, bah après ils ont réagi. Oui. Donc peut-être que la réaction a fait aussi que peut-être qu'ils ont réagi en disant bah parce que derrière tu l'entends et là on l'a parfaitement entendu parce qu'il y avait pas de tous les supporters malheureusement au Vélodrome, mais t'entendais tous les pressings. Normalement un pressing, il est pas décidé par l'entraîneur. Normalement, il est décidé par l'entraîneur avant à l'entraînement, pendant que tu dis quand tel joueur aura la balle à tel endroit, là toi tu bouges, là ils emmène le ballon là, toc, gros pressing, et puis voilà comment c'est décidé. Mais là, c'était lui. Il leur disait d'avancer, il gueulait. C'était le vrai chef d'orchestre. Il a eu une vraie attitude du début à la fin.
Il t'a plu, quoi.
Ah mais oui, mais même dans ses choix, je sais pas ce qu'en pense Ibaz, mais moi dans ses choix de début de match, j'ai trouvé ça très bien, faire reculer Guendouzi avec faire un peu son box to box comme il le fait là actuellement contre cette équipe là, fallait aller chercher la victoire, ça mettait ça titulariser Harit avec et faire le doublon avec mince sur le côté, je suis en train de chercher son nom, Nuno Tavares Je trouve ça très bien. C'est quelque chose qui est en train de s'installer. Peut-être qu'il va moins tergiverser. Peut-être qu'il va donner plus de schémas qui vont se répéter parce que les joueurs vont moins changer. Donc ça, moi pour l'instant, aujourd'hui, composition, attitude de Tudor, personnellement rien à reprocher.
Iba, t'es d'accord?
Parce que moi j'ai juste un petit truc à lui reprocher, c'est que je comprends pas. Alors j'ai pas un souci particulier avec Balerdi, mais je comprends pas pourquoi en fait il le met dans la défense à 3 à gauche, parce que il va pas assez vite et il a beaucoup de mal en fait quand il y a des ballons en profondeur. Moi je le ferais jouer dans l'axe. Parce que c'est pas un joueur pour
et
jouer.
Je crois que c'est ce qu'il préférerait lui-même.
Je pense qu'il serait plus dans l'axe.
Ouais, je pense qu'il devrait être dans l'axe. Et j'ai pas compris, puisque justement à Angers, il a pas fait un mauvais match et il était dans l'axe. Et là, le match d'après, il le met à la place de Gigot. Parce que
au milieu, ça fait un peu patron et qu'il a moins l'allure de patron que.
Moi, je pense que si Gigot est là, Balerdi est sur le banc. Et t'aurais eu.
Mais il était là, Gigot.
Gigot, il est rentré à la place de Bailly, non?
Oui, mais
il a remplacé Bailly, non?
Oui, mais Gigot, il revient.
C'est en gros, c'est Bailly qui est censé avoir le rôle du patron.
Bah ouais, mais là, il l'a pas mis à ce poste-là.
En tout cas, sur Bailly,
qu'on n'a pas cité.
Oui.
Je sais pas ce que t'en penses, Ibaz, mais un qu'on n'a pas cité que j'ai trouvé très très bon, franchement, défensivement, offensivement, et de par son, c'est Mbemba.
Chancel.
Il est là, lui.
Franchement, je l'ai trouvé excellent.
Moi, je pense qu'il peut jouer numéro 9 maintenant. Crochet,
en tout cas, il y en a des centraux à l'OM. Hein.
Non, mais Chancel Mbemba, pour l'instant, franchement, c'est.
C'est bien, c'est vrai.
Ibaz, merci beaucoup.
En tout cas, je viendrai un jour participer à l'émission en studio, vous allez voir.
Ah bah, tu es le bienvenu. D'ailleurs, tiens, vous savez qu'on est en train de préparer la Coupe du Monde activement. Et vous allez avoir quelques petites surprises sympas pendant la Coupe du Monde. On vous permettra de venir en studio pour participer à l'after.
Pendant la Coupe du Monde. On est au Qatar.
Vous ne faites pas l'after au Qatar.
Il y a des surprises.
Préviens-moi quand même, comme je ne suis pas au courant.
Il est prévu que tu aies au Qatar.
Parce que si la surprise, c'est également pour moi. Comment ça?
Ah oui, tu vas au Qatar.
Oui, je sais. Mais tu me dis qu'il y a des surprises avec des gens ici. Mais s'ils viennent ici et que nous, on n'est pas là.
T'inquiète pas, tu comprendras.
Ah non, mais vous serez là comme l'autre, là, comment ça s'appelle là, avec
Tu vois, comme Mélenchon avec des hologrammes?
Comme Mélenchon.
Ouais, bah, ça
sera si bien la première fois que Daniel fera un truc comme Mélenchon.
Si c'est pour faire des analogies de ce genre-là, vous comptez pas sur moi.
Et donc, vous pourrez venir en studio.
Il y a des gens qui peuvent être assimilés, merci.
Je vous en saurai plus dans quelques jours. Voilà, la Coupe du Monde, en tout cas, c'est
pas avatar, Daniel. Imagine l'avatar que tu vas avoir.
Dans un instant, on entendra Guendouzi et on accueillera Youssef qui veut parler lui aussi de Tudor. On fera l'évaluation ensemble pour conclure sur l'OM avant de passer aux autres matchs. On est là jusqu'à minuit et demi dans l'after. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Avec Lionel Charbonnier et Daniel Riolo, les drôles de l'âme arrivent d'ici un petit quart d'heure maintenant pour les autres matchs de la soirée. Et puis il y aura l'OL également au programme. Je rappelle que l'after, les soirs de Coupe d'Europe, est également donc sur Twitch, mais aussi rediffusé ensuite. Hein. Si vous êtes par exemple en voiture, là que vous avez un petit trajet à faire cette nuit, vous avez raté le début, vous aurez le début de l'after tout à l'heure à minuit et demi. Voilà, ça passe en boucle. C'est pratique. Et puis Youssef est là. Youssef au 32-16, bonsoir.
Bonsoir l'after, bonsoir tout le monde. Comment ça va, bonsoir, les gars?
Youssef. Ça va et toi? Youssef, je te propose d'écouter Guendouzi. Il est ravi évidemment de l'issue de ce match. C'est parti.
Le soldat.
Très heureux de la victoire ce soir. Je trouve qu'elle est entièrement méritée malgré qu'on ait mal débuté le match. Mais voilà, on a appliqué tout ce qu'on avait travaillé à l'entraînement et je trouve qu'on a fait une belle performance dans l'ensemble ce soir. Ils ont très bien joué leur première situation. On savait qu'ils étaient très dangereux quand ils jouaient entre eux, notamment les trois joueurs de devant. Donc voilà, on s'est fait avoir un peu bêtement sur le premier but. Mais voilà, après on a très bien rectifié ça. Et voilà, après c'est compliqué parce qu'on devait commencer le match à 18h45. On avait fini l'échauffement depuis un petit moment, mais c'est pas une excuse. On est mal rentré dans le match, mais après ça, voilà, ils ont marqué le premier but. On a su répondre présent par la suite. Donc c'est de très bon augure pour la suite.
Ah, il va rentrer dans la tribu des voilà-voilà de Julien Cazard. Il a mis en place cette tribu. Youssef, justement sur le premier but, Jordan Vertu n'était pas dans le match. Hein, parce que c'est lui, là, il doit y aller sur Trincao.
Ah bah, il le regarde passer, il lui demande même pas son ticket.
Exactement.
Mais Balerdi doit l'empêcher de rentrer dès le départ. Il doit lui couper un peu cette envie de rentrer.
Ils sont mis à deux, il y a deux contrôleurs RATP, mais ils n'ont pas demandé les tickets.
Et après, Vertu a mis son grain de sel là-dedans.
Gilbert, si tu me le permets, si l'équipe me le permet, moi j'aimerais prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce match et me focus un petit peu sur Igor Tudor, sur le coach de l'OM.
Vas-y.
On connaît tous les péripéties qu'il a connues à son arrivée lors de l'Olympique de Marseille, sifflé deux fois consécutivement au Vélodrome avant même d'avoir joué et de faire ses preuves suite à des matchs de préparation. Et une fois n'est pas coutume, j'aimerais citer Daniel Riolo, avec qui je suis pas forcément tout le temps d'accord, mais qui ne cesse de mettre en valeur, je crois à juste titre, l'état d'esprit de l'OM. Et pour moi, l'état d'esprit de l'OM, c'est la meilleure recrue cet été, en fait, instaurée et mise en place par Longoria à travers ce coach-là. Et en fait, on a beaucoup critiqué Tudor, et y compris moi, j'étais un petit peu anxieux cet été. En fait, je crois que c'est simplement le gars qu'il faut écouter. La première fois, permettez-moi de vous donner un exemple, la première fois qu'il a positionné Guendouzi très haut sur le terrain, juste derrière l'attaquant, il a juste cité ça en conférence de presse en expliquant que Guendouzi avait fait une formidable semaine d'entraînement, et c'était trop compliqué pour lui de le laisser sur le banc, donc il a fait jouer un poste qui n'était pas le sien. Parce que le mec s'est défoncé. Humilité, travail, intensité, solidarité. C'est des nouvelles valeurs qu'on met en place à l'OM. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très pérenne. Ça a été voulu par Longoria. Longoria a baqué, il a défendu son coach quand des joueurs sont montés au créneau. Et je crois que ça, c'est ce qui va permettre de faire entrer l'OM dans un nouveau cycle. Quelques années, je l'espère, de gloire et de résultats.
Mais quand bien même. C'est surtout important, Youssef, ce que tu dis, c'est tout ce que tu as dit est très juste, mais l'importance lorsque les joueurs montent au créneau et vont voir le directeur sportif ou le président ou qui tu veux, et que là, il y a une unité entre les deux, et que les joueurs se rendent compte que, oh les mecs, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, sachez que l'entraîneur, il sera toujours là. Parce que s'il y a la moindre faille à ce moment-là, c'est foutu. Ton vestiaire, il est foutu.
Et Lionel, juste pour terminer.
Et là, ça n'a pas été le cas, et bravo de le souligner.
Mais oui, c'est important de le souligner, parce que depuis 10-11 ans, au PSG, il y a des problèmes de culture d'entreprise, d'investissement, de valeurs, de respect de l'institution. Et le fait de voir un jeune président comme Longoria vouloir mettre ça en place à l'OM, ça me rassure énormément, puisqu'on sait que l'OM, c'est un club qui est capable du pire comme du meilleur. Donc au-delà de ce match, et j'en suis ravi, vous en doutez, je voulais revenir sur ce terme-là, l'état d'esprit que Daniel a beaucoup mis en valeur, et je suis d'accord avec lui. Et je pense que c'est quelque chose de formidable, et sur lequel j'aimerais qu'on insiste davantage dans les médias. Je vous rappelle que c'est 23 points sur 27, 23 points en Ligue 1, une première victoire en Ligue 1 malgré un historique psychologique très compliqué. Donc les gars, waouh. Enfin, bravo Tudor, bravo Longoria, quoi.
Et ça, Youssef, j'arrête pas de le dire. Je crois que c'était encore dimanche ou lundi, je sais plus, avec des gens qui critiquaient l'OM et que je me suis agacé en disant mais attendez, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe de plus à l'OM en ce moment?
On est presque à califourchon quand même sur le PSG, presque.
Enfin, c'est pour ça, c'est pour ça que je suis très souvent positif sur ce qui se passe en ce moment là-bas.
Et tant mieux. Et il faudrait qu'il mette encore une autre équipe, minimum.
Après moi, je t'assure, je veux bien tomber de l'armoire et j'en serais vraiment ravi s'il y avait une progression et encore plus de confiance dans le jeu et s'ils allaient gagner à Lisbonne. Là, ce soir, je te le dis, j'y crois pas. Mais je suis prêt à être surpris. J'aimerais bien voir ça.
Une semaine encore à patienter, voir ce résultat-là. Mais
l'OM va battre Ajaccio, donc va conforter encore sa place en championnat, et c'est très bien. Il faut engranger des points. Et après, parce que mine de rien, il y a quand même deux équipes qui ont 6 points. Non, Tottenham en a 7 maintenant. Le Sporting 6, Francfort 3.
Il y a 4
Francfort et 3 l'OM. Ils sont encore derniers, ça va pas encore être simple.
Il y a deux équipes à 4 points, Tottenham et l'Eintracht.
Tes deux confrontations là contre le Sporting et celle de
voilà, tu fais deux, t'as deux matchs, t'as deux matchs à jouer à l'extérieur. Donc le parcours il est vraiment pas simple encore, même pour être troisième. Je te dis, moi je veux bien être surpris. J'ai envie d'être surpris.
Tu vas à Lisbonne à Francfort,
que l'OM continue de nous surprendre.
Et notamment à travers des personnes peut-être qui jouent un peu moins, comme Gerson ou Payet, qui je crois vont finir par prendre le pli parce qu'ils auront envie de jouer. Et pas de plus.
23h54, le nom de Payet a été prononcé pour la première fois.
Non, je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé tout à l'heure.
Oui, mais encore une fois, nous-mêmes supporters, on vit plutôt bien sa mise à l'écart temporaire, et on le souhaite de revenir, on le souhaite de s'investir comme les autres. On n'oublie pas tous les services qu'il a portés, mais voilà, c'est un état d'esprit
qui marche sans lui, donc qu'est-ce que tu veux dire?
Non, pour le coup, on peut rien reprocher à Tudor.
C'est ce que je te dis, ça marche sans lui. Parcours parfait en championnat. En Ligue des Champions, tu t'es un peu relancé ce soir. Et qu'est-ce que tu veux dire? Tout va bien.
Non, mais ça fait partie. Payet, mais la petite surcharge pondérale, Dimitri, si tu nous entends, on t'aime beaucoup. Voilà, un peu moins de féculents le soir, et puis on est ensemble, quoi.
Mais ça fera partie, Youssef, de l'état d'esprit, c'est-à-dire que là, si l'OM va très loin et continue ses performances avec cet état d'esprit, il faudra absolument que les pseudo-remplaçants, parce que j'aime pas les appeler remplaçants, ceux qui vont être appelés dans le turnover, aient exactement le même état d'esprit. Et d'ailleurs, les titulaires sont toujours poussés par des mecs qui sont sur le banc, qui ont la banane, qui ont envie de jouer. Quand t'es titulaire et que tu vois un mec qui fait la gueule, tu te dis ça va être chaud, parce que comment ça va se passer ce soir si jamais je me blesse ou quoi. Alors que si t'as des mecs qui sont sur le banc, les titulaires voient les mecs sur le banc avec la banane, l'envie de jouer, l'envie de la gagne et tout ça, là c'est tout ça qui se met, et c'est cet état d'esprit qu'il faut garder, et ça vient aussi des pseudo remplaçants.
Youssef, petite évaluation là. Je sais pas s'il y a un joueur peut-être qu'on n'a pas cité que t'as envie de citer. Il y en a qu'on n'a pas cité du tout. Hein. On n'a pas parlé d'Under, par exemple. Alors le pauvre Klos, on n'a pas de nouvelles là pour l'instant concernant son mollet.
Mollet comme ça. Moi, je m'y connais en mollet.
Vous en avez beaucoup parlé, messieurs, mais je crois qu'Aminarit et vous allez me trouver relou pour rester là-dessus. Mais moi, j'adore son état d'esprit, la fierté qu'il a eu de rejoindre l'OM.
Comme du match ce soir, d'ailleurs.
Moi, je pense qu'il a compris que là où il est, c'est une véritable opportunité de carrière pour lui et qu'il fallait qu'il se défonce. Son discours est très volontaire en conférence de presse. Apparemment, il a une attitude plutôt réprochable en entraînement.
Ah bah tiens, écoute-le. Il parle du fait de jouer avec Alexis Sanchez. On écoute.
Let's go. C'est quelqu'un qui est très important pour nous. C'est un dynamiteur. Il est difficile à prendre pour une défense. Il bouge énormément, il presse énormément et ça nous facilite les choses. Voilà, quand on a un joueur de cette classe devant, c'est tout de suite plus facile, que ce soit pour combiner, comme sur la première action que j'ai. Voilà, il sent le football et c'est un plaisir pour moi qui a pu le voir jouer en étant plus petit, de pouvoir jouer avec des grandes personnes du monde du football comme lui. Et ouais, je m'entends de mieux en mieux avec lui. Il y a des automatismes qui sont en train de se créer et c'est de bon augure pour la suite.
Voilà, concernant son entente avec Alexis Sanchez, arrête. C'est malin de sa part. C'est-à-dire, regardez, faites-moi jouer. En plus, j'adore jouer avec lui. Vous voyez ? Et en plus, ça marche.
Il est volontaire, il bosse. Il n'est pas médisant. Non, c'est un gars qui est plutôt formidable et c'est hyper rassurant, je crois, pour la suite. Et je pense vraiment, j'ai l'intime conviction que Gerson, Payet vont prendre le pli, qu'ils vont faire les efforts, qu'ils vont avoir une folle envie de jouer et qu'ils auront compris que c'est à l'entraînement que ça se passe et c'est que les week-ends ça se passe et qu'on ne se base pas sur des statuts mais sur de l'investissement.
Merci Youssef.
Merci à vous.
Cette présentation d'exposé de Youssef.
Merci. Si je peux me permettre les gars, juste merci à Farid de m'avoir appris le foot. Merci beaucoup à Sarah, à tous mes potes de la cellule que j'embrasse tous très fort parce que je les aime. Et merci
la cellule, tu veux dire, t'étais
la
pas en
cellule aux maguettes?
Non, la cellule, c'est un groupe d'amis que j'aime beaucoup et qui me soutient depuis toujours. Donc je les kiffe et merci à vous l'équipe pour l'accueil.
Parce que sinon, t'aurais cool. Remercié Roland. Hein.
Non, pas forcément. Même si on a beaucoup de respect pour lui.
Attends, t'as appelé ça comment la prison? Je pense que t'as fait une petite boulette, Lionel.
J'ai
vu quoi?
Je crois que t'as dit les maguettes, non?
J'ai dit les maguettes.
Oui, c'est un quartier à Lyon, le quartier de Louis quand il était petit. C'est les Baumettes, tu voulais dire.
Et les Baumettes. Ouais. Je m'en suis rendu compte quand je le disais. C'est quand je le disais, je me suis dit, oh là.
Allez, salut Youssef.
Tu sais qu'on a passé
le terme d'anniversaire. Même Daniel, il va pas s'en apercevoir.
C'était il y a quelques jours.
Non, c'était il y a avant-hier. C'était le 2 octobre. L'anniversaire de Louis. C'est également les 15 ans de la disparition de Francis Borrelli. D'ailleurs, samedi soir au Parc des Princes,
Ça me fait penser qu'il y a
un petit hommage pour les deux aurait été le bienvenu.
À Marseille, il y a eu une banderole pour les 1 an de la mort de Bernard Tapie.
Pour Bernard,
vous avez vu la sortie du fils de Bernard Tapie qui dit « Ni la ville ni le club ne font rien ». Il réclame une statue de Bernard Tapie, Laurent Tapie.
Je ne me prononcerai pas sur le sujet.
En général, les statues, on ne les demande pas. Elles doivent venir... naturellement, enfin voilà, c'est ce qu'elle
ne prononce pas sur ce sujet.
C'est la demande qu'a fait aujourd'hui Laurent Tapie. Il veut une statue. Alors en fait, il veut une statue qui partirait de la fameuse photo où on voit son père porté en triomphe par les joueurs en train de tenir la Ligue des Champions. Voilà, à suivre. Je ne sais pas si le club ou la ville vont le faire, mais enfin, voilà le message du fils de Bernard Tapie. 23h59, Lionel, merci beaucoup.
Ah, j'ai fini.
Bah, oui, c'est le principe pour la Ligue des Champions. On te laisse. Maintenant, on a les Verons de Dames qui arrivent. Puisque toi, t'as pas vu tous les matchs, alors qu'eux, ils ont vu tous les matchs.
Ouais, j'ai regardé Naples, je peux te dire, enfin, un bout de Naples, je me suis régalé.
Ah ouais, c'était grand football de Naples, hein, vraiment là.
Ah ouais. Ouh. Puis c'est pas d'aujourd'hui.
Quel match.
Et bah, bonne soirée, les copains.
Salut Lionel, à bientôt.
Bonne soirée, ciao poulet.
Dans un instant, les Verons de Dames et l'Olympique Lyonnais au programme. Il est 23h59, l'after continue pendant encore 30 minutes.
RMC jusqu'à 12h30,
l'after foot.